Je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez, en France, le taux de suicide? Bon, c'est pas une question piège. Il faut savoir qu'en 2010, pour 1 million d'habitants, qui est le repère, il y a 147 suicides par an. Ce taux de suicide concerne 75% des hommes. Et c'est la première cause de mortalité dans la tranche d'âge 25-34 ans, devant les accidents de la route, et loin devant la maladie ou le cancer. Il s'agit d'un acte suprême de désespoir qui interpelle, qui ne doit pas laisser indifférent. Nous avons certainement tous autour de nous des gens qui ont des problèmes, des gens qui ne le disent pas, mais dont on peut détecter qu'ils ne sont pas bien. Les causes sont multiples. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, parce qu'elles mettent souvent en cause la société et son fonctionnement. Divorce, problème de travail, etc. Gardons-nous bien de juger cet acte. C'est un acte de... comment dire, de désespoir, suite à une désillusion, une grande amertume. La désillusion et l'amertume, nous pouvons la trouver dans la Bible, et en particulier dans un livre qui s'appelle l'Ecclésiaste. Et j'aimerais lire avec vous un certain nombre de passages de ce livre, je ne vous rassure pas tout le livre. Au premier chapitre, les versets 1 à 10. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, versets 1 à 10. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes ces choses sont en travail au-delà de ce que l'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « Vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Ensuite, les versets 17 et 18. Et le chapitre 2 jusqu'au verset 11. « J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. » J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. J'ai dit en mon cœur, « Allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. » Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire, insensé, et de la joie, à quoi sert-elle ? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qui est bon pour le Fils des hommes, de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres fruitiers et toutes espèces, de toutes espèces, pardon. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans ma maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi, dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. Au chapitre 3, les versets 9 à 14. Chapitre 3, versets 9 à 14. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Au chapitre 11, les versets 1 à 6. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Et enfin, les deux derniers versets du chapitre 12. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Le livre de l'Ecclésiaste est un livre particulier au milieu de la Bible. Il montre à partir de l'expérience de son auteur que la vie est une succession d'événements, heureux ou malheureux, d'expériences et de recherches qui ne mènent finalement nulle part, d'activités diverses et variées qui ne sont finalement que poursuites du vent. Telle est sa conclusion. Tout est vanité, dit-il à plusieurs reprises. Ce constat amer et plein de désillusions, je pense que nous pouvons tous le faire aujourd'hui et affirmer qu'il est toujours d'actualité. Ô combien ! Alors me direz-vous, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ? Moi, je vous dis oui. J'espère que vous êtes tous d'accord avec cela, sinon je ne pense pas que vous seriez là ce matin. Parce qu'il existe un remède. Il ne saute pas forcément aux yeux, mais ce remède, il est contenu aussi dans ce texte de l'Ecclésiaste. Avant de le découvrir, j'aimerais suivre avec vous le cheminement de l'auteur, les constats qu'il a faits, plutôt le seul constat, vanité, tout est vanité, les solutions qu'il a expérimentées. Et pour commencer, quelques préliminaires. Le terme de l'Ecclésiaste vient de l'hébreu « Kohelet », qui veut dire « enseignant » ou « prédicateur ». C'est d'ailleurs le titre qu'a retenu Darby dans sa version, l'Ecclésiaste ou le prédicateur. Qui en est l'auteur? La plupart des théologiens s'accordent pour dire qu'il s'agit de Salomon. Certains ont contesté cette hypothèse. On n'a pas de certitude absolue, donc on va laisser de côté ce débat, il est stérile. Et nous nous attacherons simplement au contenu du message, parce que lui, il est bien réel et il nous concerne tous, il y a 3000 ans comme aujourd'hui. Gardons bien à l'esprit qu'un message contenu dans la Bible, comme tout ce qui est contenu dans la Bible, est d'inspiration divine. Il est utile pour notre instruction, pour notre enseignement. Et si ce livre est là, ce n'est pas par hasard. Le mot « vanité » maintenant, qui est utilisé à plusieurs reprises, a trois sens. C'est un terme d'origine latine, « vanitas », qui veut dire « vide, futile, inutile ou inconsistant ». C'est le terme, c'est la définition qui est retenue par l'Ecclésiaste dans ce livre. Il veut aussi dire « fierté excessive », « volonté de se faire valoir ». Ça, c'est dans le français plus récent. Ce n'est pas le sens qui a été retenu dans l'Ecclésiaste, mais c'est un sens dans lequel on l'utilise, nous, le plus couramment aujourd'hui. Et pas seulement aujourd'hui. J'ai trouvé une citation d'Erasme. En 1509, dans l'Éloge de la folie, il a utilisé ce terme en parlant des musiciens, des comédiens, des orateurs et des poètes. Je cite, c'est pas moi qui le dis, ne venez pas me tabasser à la fin du culte, n'est-ce pas ? Moins ils ont de talent, plus ils ont d'orgueil, de vanité, d'arrogance. Tous ces fous trouvent cependant d'autres fous qui les applaudissent. Je crois que la vanité... la vanité veut bien dire ce qu'elle veut dire ici. On oublie cette définition, c'est pas celle du livre de l'Ecclésiaste. Et enfin, une troisième définition du terme vanité, cela désigne en peinture une catégorie particulière de nature morte. Voilà. On va revenir maintenant au message du texte de l'Ecclésiaste, et j'aimerais citer une introduction d'Alfred Kuhn dans un livre qu'il a écrit sur ce livre. L'Ecclésiaste est un livre à la fois fascinant et irritant. Voilà enfin un homme qui pose les vrais problèmes, qui essaye d'aller jusqu'au bout de sa pensée avec une sincérité et une lucidité peu communes. Je ne sais pas si régulièrement vous vous dites ce que je vais faire aujourd'hui, est-ce que cela va servir à quelque chose ? L'Ecclésiaste le dit, en tout cas il le constate après avoir fait. Réflexion sur la vie, sorte de philosophie en décalage avec le reste du message biblique, c'est quand même le seul texte où l'on trouve ces expressions, vanité des vanités, tout est vanité. À aucun autre endroit, on a quelque chose de semblable. Il porte un regard, au début du chapitre 1, que nous avons lu tout à l'heure, il porte un regard plein de désillusions sur la création. On peut être étonné de ce qu'il écrit, de ce qu'il dit. C'est un homme qui connaissait très bien son Créateur céleste. Alors avoir de la désillusion sur la création, on peut s'interroger. En tout cas, ça nous interpelle. Et pourtant, n'est-ce pas une parfaite traduction de la réalité ? Les fleuves vont bien vers la mer, et la mer ne se remplit pas. Le vent souffle du nord, il souffle du midi, et puis il tourne, et on ne sait jamais comment il va tourner. Parfaite traduction de la réalité, donc. Et le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il rencontre la Samaritaine au puits de Sichar, ne dit-il pas la même chose ? Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Jean 4, verset 13. Effectivement, le matin vous vous levez, vous mangez, puis le soir vous avez de nouveau faim, dans la journée vous avez soif, puis de nouveau soif. Bref, la vie sur terre est un éternel recommencement. Doit-on s'en émouvoir ? Si Dieu l'a voulu comme ça, acceptons-le avec simplicité. Et nous pouvons bien affirmer aujourd'hui que ce que l'Ecclésiaste décrit avec affliction est parfaitement exact et toujours d'actualité. Le vent, il continue de souffler. Il y a 3000 ans, il soufflait. Aujourd'hui, il souffle. Et si la terre est encore là dans 3000 ans, le vent soufflera toujours. Du nord, du sud, du midi, du levant, du couchant, peu importe. il participe à la vie sur terre. L'Ecclésiaste n'est pas arrivé à cette conclusion par hasard ou en restant les bras croisés. Que nous dit-il au chapitre 1 et au verset 13 ? J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible. Et un petit peu plus loin, au verset 17, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Après la désolation que lui cause l'observation des cycles terrestres, de la création donc, l'Ecclésiaste se réfugie dans la connaissance, dans la recherche du savoir. Et là, on peut affirmer, et c'est toujours vrai, qu'il y a énormément de choses passionnantes à découvrir. Est-ce qu'une vie suffit à tout connaître? Personnellement, je ne le pense pas, mais j'ai peut-être un esprit trop... pas assez vif. En tout cas, son constat est amer, malheureusement. Plus il avance dans la découverte des choses, dans la connaissance, et plus ardus sont les problèmes qui se posent à lui. Sa conclusion, découragement, fatigue, chagrin, douleur. Il juge même que c'est une occupation ingrate. Telle est la triste conclusion du sage. Je ne sais pas si, quand vous avez fait des études ou quand vous faites des études, vous n'avez pas de temps en temps ce sentiment d'en savoir de moins en moins plus avancé, mais effectivement, là, pour le coup, c'est décourageant. La connaissance et la sagesse, finalement, ne semblent pas lui apporter de satisfaction. Alors, il se lance dans de nouvelles expériences. Et n'ayons pas peur des mots, ces expériences sont elles aussi malheureuses. Le plaisir de la vie, chapitre 2, les versets 1 à 3. Je crois que nous savons tous que toute joie humaine est gâtée au départ, en tout cas pas forcément tout de suite, mais très rapidement, par le sentiment qu'elle n'est pas durable. Et pourtant, la réalisation de grandes choses ensuite, l'abondance de biens également, les versets 4 à 10 de ce chapitre 2 toujours. Quelle question nous posait-il au verset 3 du premier chapitre ? Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Je crois que la réponse est au verset 11 de ce chapitre 2. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité, poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. D'après lui, quel profit l'homme tire-t-il de son labeur ? Aucun. Il se tourmente le jour, il ne se repose pas la nuit. Et quel est l'avenir ? Il ne le sait pas. Peut-être que demain, il ne sera plus là. Peut-être que tout ce qu'il aura fait sera détruit. Petite anecdote, il y a 20 ans, on construisait la Part-Dieu. On va en raser la moitié dans pas longtemps pour construire autre chose. Ça, c'est le professionnel qui parle. Bref, la stabilité dans ce monde, je n'y crois pas. Les lois se font, elles se défont. Celui d'avant en a fait une, celui d'après en fait une autre. Et pourtant, qui est mieux placé qu'un roi pour accumuler les richesses, pour accomplir les grandes choses que l'ambition humaine ne cesse d'inventer? Si effectivement l'Ecclésiaste c'est Salomon, nous savons tous qu'il a été un des très grands rois d'Israël. 2 Chroniques 9, 1 roi 10 nous donne un aperçu de la richesse qu'il avait. Mais 1 roi 11 vient aussi narrer les vicissitudes par lesquelles il est passé et qui peuvent peut-être expliquer son état d'âme quand il écrit le livre de l'Ecclésiaste. Bref, devant ce tableau désespérant, que doit faire l'enfant de Dieu ? Vous serez d'accord avec moi qu'il ne lui est pas défendu d'aimer la vie, de connaître le bonheur, d'être heureux sur la terre. Est-ce que ça doit être sa seule raison d'être ? La recherche du bonheur par tout moyen. N'est-ce pas une illusion ? À mon sens, c'est à l'homme lui-même qu'il appartient de réaliser les conditions de sa vie. Et j'aimerais lire pour cela ce que nous dit Pierre dans sa première épître. Pierre nous donne quelques consignes simples pour cela. Première épître de Pierre au chapitre 3, les versets 8 à 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Tout un programme. N'est-ce pas par cela que l'homme peut connaître une vie bénéfique sur terre? La richesse dont il est question dans l'Ecclésiaste, elle provoque un sentiment d'insatisfaction. L'Ecclésiaste le met bien en valeur. L'avare ressemble à quelqu'un qui essaye de se désaltérer avec de l'eau de mer. Plus il boit, plus il a soif. Telle est la tromperie de la richesse. Jésus, dans la parabole du semeur, la rend responsable, avec les soucis du présent siècle, d'étouffer la parole de vie. Matthieu 13, verset 22. Et pourtant, rechercher la richesse, pourquoi faire? Elle s'éteint avec la mort. Un drap mortuaire n'a pas de poche. Vous ne pourrez pas y mettre vos ducats, vos euros, tout ce que vous voulez. Et quand vous êtes mort, il est trop tard pour s'attacher à d'autres richesses. Paul, en s'adressant à Timothée, règle en quelque sorte la question de la richesse. 1 Timothée 6, versets 9 et 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il ne s'agit pas de faire un réquisitoire contre les riches, évidemment. Le travail, tout travail mérite salaire. La rémunération d'un travail, c'est normal. Mais que ces richesses soient utilisées à bon escient, pour servir Dieu, et dans l'humilité. Tel pourrait être le message de Timothée. Et cela évite bien des tourments d'ailleurs. En ce qui concerne le travail maintenant, il est nécessaire. Mais il faut qu'il soit paisible, accompli pour le Seigneur, et non pour servir sa propre ambition. Paul, à deux reprises, écrit au sujet du travail, dans l'Épître aux Colossiens et dans l'Épître aux Thessaloniciens. Aux Colossiens d'abord. Que leur dit-il? Au chapitre 3, au verset 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Ici, Paul est clair. On doit travailler. Et si on travaille, on doit le faire pour le Seigneur. Aux Thessaloniciens, la deuxième épître, chapitre 3 et les versets 8 à 12. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Car ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement travailler paisiblement, ne pas être à la charge des autres. Tel est le message de Paul aux Thessaloniciens. Le travail fait partie de ce que Dieu a instauré dès la chute de l'homme. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, nous dit-il dans Genèse. Gagner son pain à la sueur de son front, ça implique de travailler, que ce soit la terre, que ce soit autre chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de personnes qui vivent au sens propre du terme de ce qu'ils produisent. Mais par contre, ils touchent un salaire de ce qu'ils font, et ce salaire leur permet de vivre. Et merci Seigneur pour tous ceux qui ont un travail. Et n'oublions jamais de prier pour ceux qui n'en ont pas, car pas de travail dans la société d'aujourd'hui, c'est difficile. Le travail revêt un caractère bien différent selon qu'il est considéré à la lumière du soleil ou à la lumière de l'éternité. Et seule cette dernière peut révéler ce qui est vraiment profitable. Nous allons arriver à la fin du livre de l'Ecclésiaste. Je me mets dans mes notes, excusez-moi. Les chapitres 11 et 12 viennent conclure ce que l'on pourrait appeler un constat amer et plein de désillusions. Le verset 1 du chapitre 11 peut sembler étrange. Jette ton pain à la surface des eaux et il te reviendra. Car avec le temps, tu le retrouveras. Pardon. Jeter son pain à la surface de l'eau, si vous mettez du pain dans l'eau, il va ressembler à une éponge, puis il va se décomposer. J'ai rarement vu du pain nous revenir quand il était tombé dans la rivière. Et pourtant, de quoi nous parle en fait ce passage? Le pain, c'est la parole de vie. L'eau, c'est le monde dans son état trouble et agité. L'eau est tout le temps en mouvement. Le monde est tout le temps en mouvement. Jeter le pain à l'eau, c'est répandre l'évangile dans le monde, sans compter. C'est ce qu'évoque le verset 2. Sans regarder aux difficultés, le verset 4. Ni se poser de questions, le verset 5. Et ça, il faut le faire sans relâche, le verset 6. La fin du verset 5 nous rappelle que c'est Dieu qui fait tout. C'est toi qui œuvres, mais c'est Dieu qui fait tout. Se glorifier de son travail n'est pas une bonne chose. Même si on en tire de la satisfaction, et ça, tant mieux pour ceux qui tirent de la satisfaction de leur travail. Mais c'est Dieu qui fait tout. Elle nous rappelle que, notamment le verset 6, que notre ouvrage peut être bon. L'homme semble être invité à marcher dans les voies de son cœur, un petit peu plus loin, à se réjouir dans sa jeunesse. Mais le rappel est clair. Au bout du chemin, au bout de la vie, il y a le jugement. Il est évoqué de la vanité de nouveau de toute chose, mais l'invitation à se souvenir de son Créateur dès sa jeunesse indique que c'est un temps favorable pour se tourner vers Dieu. C'est quand on est jeune qu'on est disponible. C'est quand on est jeune que l'on peut comprendre. C'est quand on est jeune que l'on a du temps devant soi pour accepter Dieu et pour faire les œuvres qu'il a préparées pour soi, pour se mettre à son service. Ça ne veut pas dire que quand on est vieux, on ne peut pas. Mais plus on attend, et plus c'est difficile. Les habitudes s'installent. Bref, être jeune quand on se tourne vers Dieu, c'est une bénédiction. La foi craint Dieu. Les commandements de Dieu, les commandements qui sont dans la Bible, sont d'inspiration divine. Tout ce que l'on a lu dans la Bible, c'est Dieu qui l'a inspiré à leurs auteurs. La foi craint Dieu et les œuvres de celui qui craint Dieu observent et respectent ses commandements. La vie de foi produit des œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui produisent la foi ou le salut. c'est la foi et le salut qui produisent des œuvres. Ces œuvres, elles ont été préparées d'avance par Dieu pour l'homme, et il pourra ainsi affronter le jugement de Dieu. En conclusion, que nous dit l'Ecclésiaste ? Tout est un éternel recommencement. Vous êtes d'accord avec moi que c'est vrai. La vie est vaine. Là, tout dépend comment on se place. Les œuvres sont vaines. Là encore, tout dépend dans quel état d'esprit on les fait. Quelles sont les réponses que l'on pourrait apporter à ces constats ? Pour celui qui est sans Dieu, s'il est pessimiste, il va vous dire à quoi bon vivre. Et là, on en vient au chiffre que je vous disais tout à l'heure. Quelle solution à part le suicide ? Autre solution pour celui qui est optimiste, et c'est la philosophie des épicuriens. Vivons donc toutes les expériences possibles. La vie est trop courte pour ne pas s'en priver. Vous serez d'accord avec moi que les œuvres, que ce soit le suicide ou toutes les expériences, sont bonnes à vivre, ne sont pas forcément de bonnes œuvres. Maintenant, si vous avez Dieu avec vous, dans votre cœur, vous n'êtes ni pessimiste ni optimiste, vous êtes confiant. Le craindre va produire l'obéissance. L'obéissance va amener à accomplir les œuvres bonnes qu'il a d'avance préparées pour chacun, selon ses dons. Des dons qu'on ignore parfois, mais qui se révèlent à ces moments-là. Une certitude et un sujet de réjouissance peuvent être lus dans le verset 16. Tout viendra en jugement. Si vos œuvres, vous avez un doute, vous êtes dans la crainte. Les œuvres mauvaises seront révélées. Mais je crois que c'est surtout de la réjouissance dont qu'il faut avoir dans son cœur. Car lorsque les œuvres sont accomplies dans l'obéissance, elles sont jugées bonnes par Dieu lui-même. C'est ce que nous dit l'Ecclésiaste. L'homme peut accomplir des œuvres bonnes aux yeux de Dieu. Et là, la vie n'est plus vaine. Les œuvres ne sont plus vaines. Il ne reste que la vie est un éternel recommencement. J'aimerais vous laisser, en conclusion, un verset. En Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Que nous ayons à cœur, dans tout ce que nous faisons, de regarder vers le Seigneur.
Merci Eric pour ce rappel. C'est vrai que c'est des livres où on a tendance un peu à faire le grand écart quand on lit sa Bible, mais c'est intéressant. Très bon éclairage. Mustapha, tu as la parole.
Bonjour à tous et à toutes. Alors, par où il faut commencer ? Oui, oui. Donc, au niveau santé, il y a une facture à payer, comme on dit. Quand on se dépense trop, on compte pas, etc., on finit par... Donc, ça fait quelques mois que j'avais un petit peu quelques soucis. Plus fort, devant le micro, là, voilà. Donc, j'ai ressenti quelques malaises à certains moments, j'ai consulté, mais on ne m'a rien trouvé de particulier, jusqu'à il y a 2 semaines. Donc, j'avais une douleur dans la poitrine, et puis je revenais d'un long trajet d'Alger jusqu'à où j'habite, Béjaïa. Et puis, j'ai appelé un frère qui est médecin, donc, et il m'a dit, bon, moi je te conseille, arrête-toi chez un cardiologue. C'est ce que j'ai fait. Et puis, c'était quelque peu alarmant, il m'a dit, voilà, d'après le constat que je dresse, là, vous avez de l'angine de poitrine, il faut absolument ralentir la cadence, etc. Il m'a d'abord donné un traitement. Et puis, Deux jours après, il m'a dit, si ça va pas, d'ici deux, trois jours, revenez me voir. J'y suis retourné. Il m'a dit, bon, je vous hospitalise. Et puis, à la clinique, on m'a fait les électrocardiogrammes, tout ça et tout. Il n'y avait rien de spécial. Mais le cardiologue en question voulait en avoir à tout remettre et il m'a fait rappeler le lendemain. Et ils m'ont fait une coronographie, là, où ils rentrent dans les artères et tout. Et là, ils ont trouvé une artère bouchée à 90%. Donc, ce qui explique un peu les fatigues et tout, parfois, même en marchant, comme ça, dès qu'il y avait une petite côte, j'étais obligé de m'arrêter, quoi. Et donc, voilà, certains parmi nous, certainement, ont connu ça, ou connaîtront ça. En tout cas, ça fait partie de la vie. Et donc, voilà, donc ils ont fait le diagnostic et tout. Et puis, ils m'ont demandé une somme astronomique pour m'opérer. Donc, j'ai dit, bon, j'ai pas ces moyens. Et donc, puisque j'ai une assurance ici, je suis vite rentré. Le lendemain, j'ai pris un vol et je me suis fait hospitaliser directement. Et voilà. Et on m'a opéré le soir même. Et je respire mieux depuis. Enfin, j'espère. Encore des séquelles. J'ai mon bras qui me fait mal parce qu'il rentre par le... Une fois ils sont rentrés par l'aine, une autre fois par ici. Donc bon, bref, je ne sais pas ce qui est devant moi, mais je sais que je dois ralentir la cadence, ça c'est sûr. Et puis, peut-être changer un petit peu les activités. Donc, à chacun ses activités, on peut dire comme ça. En tout cas, je bénis Dieu parce que déjà depuis... un peu plus d'un an, j'ai commencé à sentir qu'il fallait que je passe le flambeau. Et c'est chose faite aujourd'hui. Il y a deux équipes maintenant qui sont en place, donc je respire. Et je n'ai pas tout lâché comme ça non plus, mais je vais le faire progressivement, je pense. Et trouver à changer d'activité. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui me disent, c'est le moment d'écrire un peu. Je ne sais pas, on verra bien hein, comment le Seigneur conduira. Mais voilà, donc j'en suis là, c'est un constat. Le travail continue sur place, toujours beaucoup d'encouragement. Et c'est ça qui nous redonne un petit peu des raisons d'espérer, le plus souvent. Quand on commence à se décourager, on voit que de nouvelles âmes s'approchent, de nouveaux villages sont touchés. Pardon. Donc tout ça, ça nous motive et ça nous captive vraiment pour continuer la course. Bien sûr, il y a des constats aussi qu'on fait, c'est où est-ce qu'on va mettre tout ce monde. Le problème numéro un, c'est les lieux de culte. Vous savez qu'il reste quelques lieux de culte, trois ou quatre en tout cas, qu'on devrait pouvoir récupérer, mais qui tardent. Ça fait 10 années aujourd'hui qu'on court après le lieu de culte qui est dans notre ville, à Béjaïa, là. On a mis ça en justice, en appel, puis maintenant c'est à la haute cour d'Alger, et on n'a toujours pas de réponse, on ne sait pas ce que ça peut donner. On finit par comprendre que c'est la prière qui peut vraiment déclencher les choses, et moi personnellement j'ai la foi que ça va venir. Donc, éduquer aussi toute une génération de nouveaux croyants, c'est pas facile. On voit bien que sur le terrain, il y a beaucoup d'idées saugrenues et de toutes sortes de choses. L'ennemi est présent sur le terrain. Bon, il faut pas se relâcher, il faut vraiment persévérer. Ça devient de l'endurance maintenant. Mais on a aussi des programmes pour... on doit démarrer une école biblique, Dieu voulant, au mois d'octobre, sur Alger. Et puis, faire de la formation continue, notamment avec les pasteurs en activité. Donc, c'est beaucoup de travail. Prier aussi pour des solutions. Les nationaux ne sont pas si nombreux à avoir vraiment été équipés. Et Les étrangers, on ne leur donne pas de visa, à beaucoup de reprises. On a actuellement 5 visas en instance qui datent de novembre dernier. Ça bouge pas. Alors qu'on nous avait vraiment promis en haut lieu que les choses étaient naturelles, qu'il fallait ces choses-là et tout. Alors voilà, c'est des points d'interrogation. La joie est toujours présente. Hein. J'ai eu hier soir les deux personnes de mon église donc, qui me disaient ils ont fait les baptêmes hier encore, 8 baptêmes. Et dans beaucoup d'églises, ça continue. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle l'église protestante d'Algérie, donc qui est le seul organisme reconnu par l'État dans lequel on s'est intégré. On a 28 communautés aujourd'hui. Il y en a encore beaucoup qui doivent rejoindre. On est quand même sélectif pour pouvoir vraiment gérer ça. Il ne s'agit pas d'accueillir tout le monde et puis ensuite on ne peut plus gérer. Vous savez aussi que c'est des communautés de différentes dénominations à tous les bords, on pourrait dire. Donc c'est pas facile à gérer non plus. Mais je crois que on choisit pas le lieu dans lequel on est spirituellement. Et il faut bien se faire une raison, c'est que là-haut, on sera tous réunis. Donc il n'y aura pas tel East ou tel... je ne sais pas. Pour l'instant, on est sous la bannière de l'Église protestante d'Algérie, afin d'avoir une reconnaissance légale. Et la majorité est évangélique, bien sûr. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu de l'avancement un petit peu de l'Église. On travaille beaucoup, comme j'ai eu l'occasion de vous en parler, avec le satellite. Donc on a des équipes qui tournent dans le pays quoi, pour filmer des témoignages, des petits débats, des petites conférences, des choses qui se font comme ça dans telle ou telle église, et qu'on repasse ensuite sur l'antenne. Donc ça permet de nourrir ces multitudes qui sont rattachées finalement à rien. J'ai un ami qui dit que plus de 80% des chrétiens algériens ne fréquentent pas de lieux de culte. Je pense qu'il ne doit pas trop être loin de la réalité, parce que ces lieux de culte sont déjà exigus et puis ils sont toujours pleins. Moi, notre église, là où je suis, donc on fait 2 cultes par semaine, un le vendredi, un le samedi, plus les réunions de semaine, etc. Et on n'arrive pas avec tout ça, donc voilà. Je pense qu'on espère que vraiment il y aura une nouvelle ère maintenant où on va pouvoir respirer un peu, où peut-être le gouvernement lâchera un peu du lest, ou même que la population deviendra beaucoup plus favorable au mouvement des chrétiens. En tout cas, vous savez, on le sent bien dans tout ce qu'on fait. Les chrétiens sont une référence, sont des repères dans la société. On est quand même bien respectés. S'il y a des opposants comme les islamistes et autres, c'est une réalité, mais je crois quand même que les chrétiens sont bien vus dans le sens où c'est vraiment des facteurs de paix, des ouvriers de paix, et aussi je pense que même dans le débat socio-économique, etc., il y a vraiment des bonnes références. Donc prions pour que vraiment ces choses-là se développent et qu'on puisse être comme le sel, petite pincée dans la marmite, tout le monde s'en porte bien. Donc voilà un petit peu le secret des chrétiens, que vraiment Dieu nous garde dans sa main et qu'il nous redonne des forces. Pour moi, c'est une réalité aujourd'hui. Mais que le Seigneur vraiment nous conduise dans tout ce qu'on fait et qu'il fortifie les uns et les autres. Merci pour vos prières, votre soutien, tout ce qui se fait dans l'Église ici. Je vois beaucoup de nouveaux visages les gens que je découvre. Que Dieu vous bénisse. Et que sa gloire soit vraiment célébrée chaque fois qu'on se rencontre.